Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC, 15h-18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show, Adrien, est ensemble jusqu'à 18h.
Oui.
Tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le Kikadi aujourd'hui?
Alors, dans le Kikadi aujourd'hui, c'est toujours intéressant, c'est que quand Vincent est en tournée, les Kikadi sont différents selon si sur le lieu de la tournée il y a la fibre ou juste la 3 ou 4G. Je vous laisse imaginer ce qui se passe quand Vincent a la fibre. Ça va très très vite les réponses chez Moscato.
Ça, c'est à 17h45 et puis bien sûr, comme presque tous les jours, il y aura un petit cadeau bonus après le Kikadi. Des débats sérieux quand même. Hein.
Oui.
La solution est de virer Nasser Al-Khelaïfi, ça c'est pour le PSG, après l'élimination en Ligue des Champions. L'Euro est-il digéré pour l'équipe de France de foot? Ça c'est très sérieux. Et puis il y a un peu moins sérieux à 17h. Donc ce débat dont on vous parle depuis 15h, peut-on gagner sans un grand buteur? Denis réglera un problème.
Tenter de régler un problème.
Voilà. Dont Eric Dimeco va s'emparer. D'abord, le Final Four dans une ville unique en Ligue des Champions. Êtes-vous pour ou contre? On a posé la question le jeudi 28 avril.
RMC, le Super Moscato Show.
Comme chaque été, la fête du village organisée à Saint-Sorlin-d'Arve nous a permis de découvrir ou redécouvrir ses coutumes et ses produits locaux.
Voilà, c'est parti! C'était la finale de Ligue des Champions!
Pour clôturer cette journée riche en émotions, le groupe folklorique a présenté leur costume traditionnel avec une chorégraphie de danse.
Ouais. Tourelle qui continue à haranguer la foule. Il veut de l'ambiance, il veut que le stade se retourne totalement.
Le public a eu la possibilité de se retrouver pour quelques minutes dans la peau d'un éleveur en participant à l'atelier traite de chèvres.
Mais bon, est-ce qu'une finale c'est quelque chose de naturel, quelque chose de logique? Pas
non.
Sûr.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale dans laquelle on assiste depuis sa naissance?
Breaking news.
Ah, Denis est revenu dans l'émission. Merci Denis.
En ce moment, ce sont les demi-finales de la Ligue des Champions en foot. Vincent, mardi, on a vécu un match exceptionnel entre City et le Real, 4-3. Ça n'est pas terminé puisque mercredi, on remet ça. Real City, deuxième acte dans un Santiago Bernabéu en feu. Villarreal peut rêver mardi à ce qu'on appelle une remontada contre Liverpool. C'est l'histoire de la Ligue des Champions. Eh bien, cette histoire, c'est peut-être terminée, Vincent, selon le Times. L'UEFA réfléchirait à la mise en place d'un Final Four dans une ville unique avec les demi-finales sur un match sec et la finale, le tout dans le même stade. Êtes-vous favorable à cette évolution ou pour vous est-ce inenvisageable? On vous attend au 32-16. Loïc Braillet est avec nous.
Salut tout le monde.
Les phases finales, façon rugby, quoi. Les demi-finales au même endroit.
Loïc, ce projet de réforme est-il crédible?
Oui, c'est quelque chose de crédible parce que c'est une idée qui circule au sein des instances européennes depuis pas mal de temps maintenant et surtout parce qu'on a déjà eu une expérimentation de ce genre
COVID.
De formule, souvenez-vous, en 2020, à cause effectivement du Covid, l'UEFA est obligée de revoir ses plans un peu au dernier moment, d'improviser et d'organiser un Final 8 à l'époque à Lisbonne, à partir donc des quarts de finale, année où le PSG avait échoué en finale face au Bayern Munich. Alors là, selon nos confrères du Time, souvent bien informés quand même sur les arcanes européennes du foot, l'idée c'est de faire non pas un Final 8 mais un Final 4. Donc à partir des demi-finales, on choisirait une ville unique pour jouer les deux demi en match sec. Donc effectivement, là, ce serait la fin de la confrontation aller-retour à partir des demi-finales. L'objectif est donc de créer une sorte de semaine du foot, entre guillemets, dans une ville avec de nombreux supporters qui se réuniraient au même endroit. Alors le syndicat des clubs européens, l'ECA, présidé par Nasser Al-Khelaïfi, serait plutôt favorable à cette idée. Côté UEFA, on indique que rien n'est acté pour le moment, mais qu'il y a des discussions un peu informelles là-dessus. Rappelons que ce qui est acté en revanche, c'est déjà la réforme de la Ligue des Champions qui rentrera en vigueur en 2024-2025, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est déjà acté avec un passage à un mini-championnat avant les huitièmes de finale, avec 36 équipes, et donc pourquoi pas, dans un horizon autour de cette date-là, pourquoi pas un petit peu plus lointain, l'instauration d'un Final Four, mais ce serait effectivement une cassure avec donc l'absence de ces confrontations aller-retour qui nous ont tant fait vibrer effectivement ces dernières saisons.
Monsieur Moscato.
Ouais, c'est vrai que les confrontations aller-retour, c'est quand même l'essence même du foot, quoi.
La Coupe d'Europe.
C'est de la Coupe d'Europe, ouais. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Final Four, manière rugby, c'est pas, au rugby, tu peux pas faire des matchs aller-retour comme ça en demi-finale parce que t'arrives en fin de saison et que tu pètes les mecs sur une semaine ou sur l'autre. Mais par contre, c'est l'essence même du foot de faire des matchs aller-retour. Des matchs aller-retour, c'est quand même un suspense, c'est hitchcockien. Tu le vois aujourd'hui, le Real Madrid 4-3 contre Manchester
Tout
City. Tout est encore possible. Tu attends le second épisode parce que ça va être encore un match déluré, complètement de fou. Ça va marquer des buts de partout. Tout le monde, ça va être quelque chose de magnifique. Donc je trouve que c'est trop minimaliste, trop. Je vois pas trop l'intérêt. Alors peut-être il faut modifier. Moi je suis pour modifier.
Ouais, chercher l'intérêt financier. D'après moi, ça doit être par là.
Je me demande parce qu'il y a des matchs à moins.
Il y a
des matchs à moins. Ouais, même l'intérêt financier, c'est pour ça que je vois pas l'intérêt.
Les diffuseurs vont grincer des dents,
il y a moins d'oseille. Enfin, le foot en général va couiner. C'est automatique. Donc là, je voulais chauffer Eric, tu vois, en disant que c'était facile.
Je croyais que tu allais me chauffer. J'étais prêt, moi.
Quand c'est trop, je peux pas. Il fallait que je. Pour attaquer, ça aurait été dans une heure, je t'aurais dit n'importe quoi, mais là, pour attaquer.
En fait, ça tombe la semaine de City Real.
Voilà,
on attend tous le match retour.
Et priver les matchs aller-retour à ce niveau d'intensité. Ah, c'est dommage.
Eric.
Bah écoute, je qui a ces idées là
c'est
qui,
ça le débat aussi. Pourquoi ces idées là
Moi je comprends pas. Il y a déjà des trucs que je comprends pas. J'espère.
Nasser, il a fait finale avec le Final Four.
C'est assez de vie.
Oui, mais tu peux pas. Non, mais alors c'est vrai qu'en 2020, après cet épisode-là qui n'était pas du tout prévu, évidemment, à cause du Covid, il y avait eu pas mal de réactions positives en disant tiens, c'était pas mal quand même.
Mais il n'y avait personne au stade.
Voilà, c'est ça.
Mais le problème qu'il y a,
c'est que ça va obliger. Et les ambiances à domicile, encore Liverpool hier ou City, où c'était le feu, et je pense qu'à Bernabéu ça va être le cas aussi. Ça, on l'aura plus, malheureusement.
On va lever l'intérêt sportif parce qu'on sait très bien que le match aller-retour rajoute du suspense. Sous suspense, on l'a vu déjà sur le match de mardi. Imagine, tu as une équipe qui sort, je veux dire une demi-finale, tu la joues pas sur un match, c'est pas comme ça chez nous. Et on le voit, alors en plus ça tombe à la mauvaise semaine, tu as raison Adrien, où on a vu un match de fou, où on attend le retour avec impatience, sans dormir comme les petits qui attendent le Père Noël. Donc pourquoi ils veulent nous enlever ça? L'intérêt économique, j'ai un gros doute du coup, parce que tu as raison, ça enlève des dates à la télé
et
des recettes guichets.
Moyen de match,
voir toute l'économie qu'il y a. Parce qu'on ne se rend pas compte de l'économie dans une ville quand il y a un match de foot. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a c'est à Feyenoord, mais la semaine prochaine, il y aura l'OM jeudi prochain. Je sais comment ça va se passer. Les mecs arrivent le matin, ils sautent tous sur le vieux port en train de manger au restaurant. Derrière, ça va boire des coups, ça va voir le match. Derrière, ça va au resto. Il y a les hôtels qui marchent. Ouais. Donc, il y a toute cette économie-là qu'on n'arrive même pas à calculer. Mais on le sait.
Personne travaille à Marseille.
Et il y a un autre truc. Il y a un autre truc dont il faudrait tenir compte quand même. Et là, c'est là où gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on fait comme débat depuis le début de l'année? On fait des débats sur les supporters dans le foot qui sont devenus jojo. Et c'est la vérité. Ils sont devenus tous jojo. Et j'étais au rugby samedi soir, c'est merveilleux. Tiens, les Toulousains et les Toulonnais qui passent l'après-midi, ils passent l'après-midi. Mais nous, c'est pas comme ça. Donc, imaginons, tu vois, parce que bon, tu peux avoir les meilleurs supporters du monde de quatre équipes pendant tout le week-end qui sont là. Imagine, donc, à Marseille, arrivent quatre équipes et dans les quatre équipes, tiens, les plus turbulentes d'Europe. Je vais pas les citer. On n'est pas obligé, mais on en a vu quelques-uns ces dernières années de supporters qui pas se déplacer. Et donc imagine, sur les quatre, il y a quatre équipes, quatre débiles. Qu'est-ce que c'est? Donc tu es obligé de. Là, c'est l'armée qu'il faut faire venir, là. Et donc les mecs, ils vont pleurer derrière.
Non, mais ça, je te jure, ça m'a traversé l'esprit.
Mais bien sûr, au rugby, vous faites. Au rugby, moi, je l'ai vu, on avait fait, rappelle-toi, après, je passe la parole à Marion. Désolé, Marion. On avait fait sur les demi-finales de top 14 à Marseille, on avait fait notre truc sur le vieux port. Tu te rappelles? Quand on faisait l'émission le vendredi, il y avait les supporters des quatre équipes qui étaient là et qui de partout le soir on était sortis de partout dans Marseille, il y avait des supporters. Il y a pas de souci au rugby, je te dis, mais les supporters de Salonique, mais les supporters de Feyenoord, mais les supporters des Turcs, on a vu les Turcs,
les Grecs,
c'est parce que c'est bien beau de dire ils sont jamais en demi-finale des champions, et si ça arrive, tu fais comment dans 10 ans?
Il y a bien un mec de la CGT qui va agresser à Marseille.
Ouais, t'as rappelé le petit vieux
quoi, je te file un coup de canne dans la gueule à cause de Dunkerque. père.
J'étais là, un joli papy.
Un joli
papy. Qu'est-ce que ça fait encore
un papy, mais il était âgé, hein, voilà, qui va voir Vincent. Il était venu pour ça, limite, pour choper Vincent. Il dit t'es trop de droite, j'ai entendu tes propos sur les syndicalistes et tout. Il voulait taper Vincent avec sa canne.
Parce que nous, les CRS, on les a fait reculer dans les années 60 sur le port de Marseille. J'ai dit non, mais j'en doute pas, monsieur, c'est pour rire.
C'est pour rire, on est con de nous.
Le mec, tu es pas pour rire, tu vas prendre un coup de canne dans la gueule. J'ai dit là, il faut partir, parce qu'il reviendra pas à lui.
Marion, cette nouvelle formule, j'ai l'impression que tu es sur la ligne de Vincent et Eric là.
Mais complètement, pour moi, c'est totalement ridicule, les matchs justement aller-retour. Et c'est grâce à ça aussi que tu vois les grands coachs sont capables de préparer un match retour en fonction de ce qu'ils ont vu sur le match aller. Un résultat qui, effectivement, là, sur le 4-3 sur City, quand tu vois les 20 premières minutes où déjà ils en prennent deux, le Real, tu te dis, ils vont prendre l'eau, quoi. Il y a Mahrez qui rate un truc inratable, ça doit faire 3-0. Pep pète un câble sur le bord du terrain. Et tu vois Ancelotti à la mi-temps, bah, ça repart à la deuxième mi-temps, ça fait 4-3. Et tu te dis, là, tu vas vraiment voir un grand coach qui va essayer vraiment de préparer une autre tactique ou peut-être quelque chose de différent au match retour. Et Guardiola aussi qui va demander à ses joueurs, quand ils ont des pénalties devant ou en tout cas des ballons où ils doivent marquer, de les mettre. Donc c'est là aussi que tu vois l'essence des grands coachs pour préparer des grands matchs. Tu ne peux pas le faire sur un match. Regarde, sur un match en 2020, City perd sur Lyon. Tu te dis pas au départ, quand tu vois City jouer contre le Real, tu te dis pas qu'ils vont perdre contre Lyon, tu vois, sur un match, c'est trop la loterie. Tu enlèves toute cette partie tactique, tu peux changer au match retour. Tu enlèves pour moi l'essence complète de la Ligue des Champions, qui est effectivement une compétition très dure à gagner parce qu'il y a énormément de matchs à aller jouer. Et c'est ça qui démontre aussi les grandes équipes. Parce qu'il y a un grand banc, il y a un grand effectif et que tu peux faire tourner à des moments de la saison. Donc tu récompenses le meilleur. Et je suis désolée, moi tu fais pas un Final Four. Ça enlève complètement tout ce qu'on vient de décrire. C'est ridicule.
Et puis en plus, moi j'ai souvenir de la fameuse année avec j'ai suivi la campagne de l'Ajax là. Avec le but de c'est Lucas qui met à la dernière minute cette frappe que je vois partir contre le poteau et qui va qualifier Tottenham.
Ah, et l'Ajax alors Tottenham,
bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est Lucas qui marque le dernier. Hein. Je me souviens que venait. Ah mais je pleurais. J'allais avoir la finale de rêve Ajax Liverpool, c'est-à-dire mon enfance, tu vois, qui revenait à moi sur ça tard après. Et donc c'est que sur un match retour que tu peux vivre ça. En plus avec l'histoire du but à l'extérieur. D'ailleurs, j'espère qu'à la fin de la saison, Loïc, je l'ai dit, j'espère qu'il y a des gens sérieux, pas comme dans cette émission où c'est les pop, déjà sérieux de notre rédaction qui feront un peu le bilan de cette histoire de but à l'extérieur.
Ils le feront dans l'after,
Voilà, oui, dans l'after, oui. Ils sont capables de passer un mois dessus, l'after.
Oh oui.
Mais en tout cas, ce serait intéressant de le voir parce que.
J'ai tout oublié la veille.
J'ai un gros doute sur l'intérêt de cette histoire-là et j'aimerais bien avoir le résultat à la fin de la saison.
Mario, je ne sais pas si tu connais cet extrait d'Eric qui est en transe suite à un but à l'extérieur sur un match aller-retour en Ligue des Champions. C'est l'Ajax. Eric est fan de l'Ajax. C'était il y a quelques années.
Fais-moi écouter, vas-y.
Et Eric nous a sorti cette tirade qui est rentrée dans l'histoire des commentaires.
On n'est pas obligé, Mario, tu sais, elle arrive. Elle n'est pas obligée de se remettre à niveau tous les jours non plus.
On remet Mario à niveau.
Si.
Tout de suite, c'est émouvant. C'était pas écrit. Hein. C'est parti.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Hein. Ce sont des messieurs.
Des jeunes adultes.
Ah non, des messieurs. Bravo messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
Merci
Eric.
Des grands hommes
avec un grand H.
Ouais, c'est
Jean Chien. Des hommes avec un grand tour, quoi, j'aurais dû dire. Mais Denis revient quand, Denis?
Denis revient lundi.
C'est pas un mec qui revient. Il te manque déjà, Denis. Hein. C'est pas sympa pour moi, Eric.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est Denis.
Non, c'est parce que Denis, c'est lui qui m'enfle d'habitude. C'est lui qui parle de tous les trucs comme ça.
Et que Eric traverse un début de semaine un peu pénible.
Formule de Ligue des Champions, le Final Four. Plus de demi-finale aller-retour, un seul stade. Est-ce que vous êtes d'accord? Régis est avec nous au 32-16. Régis.
Bonsoir.
Comment ça va, Régis?
Bonjour, du moins.
Bah salut, oui, Régis.
Alors, Régis.
Écoutez, hein, vous avez à peu près tout dit. Hein. Vous avez tout dit par rapport à l'économie. C'est vrai que derrière, aller boire un coup à côté du stade, prendre l'hôtel pour se déplacer, toute l'envie qu'il y a du match aller à la maison, du match retour à la maison en fonction. Vous avez déjà tout dit par rapport à ça. Après, moi, le petit truc qui me fait que ça peut être intéressant, peut-être remarqué, c'est peut-être voir des matchs plus intéressants. Ça se joue sur un seul match. Ouais, je me dis que les mecs vont plus se donner, tu vois. C'est plus intéressant par rapport à ça.
T'es sûr de ça ou ça va être encore plus fermé par peur de prendre un but?
Ben, je sais pas, justement, en fait, ça dépend. Ça va dépendre, en fait, du coaching qu'il va y avoir auparavant. C'est un peu compliqué. Je me dis qu'il peut y avoir quand même des matchs hyper intéressants, comme des matchs complètement claqués.
Régis, on a un exemple des finales de Ligue des Champions qui sont rarement de bons matchs.
Hein. C'est ce que j'allais dire.
C'est pour ça, il faut faire attention aussi en fonction du match qu'il va y avoir. Il y a des équipes où on sait qu'ils vont jouer complètement la défense, et comme d'autres équipes qui vont jouer complètement l'attaque, c'est à tout perdre, quoi. Mais ça peut-être avoir un point positif par rapport à ça.
Tu as raison de le signaler, il peut y avoir un doute. Le problème, c'est qu'on a un peu l'exemple de ce genre de match à couperer, c'est-à-dire les finales, puisqu'en réalité, ta demi-finale, c'est la même que la finale. Du coup, tu la joues sur un match sec. Et c'est vrai, tu as raison, Adrien, des finales fermées, barbantes, parce que tu te découvres pas, parce que tu sais que si tu prends le premier but, tu vois. Des finales mythiques, il y en a, mais sur 10, tu en as 2 ou 3, quoi, tu vois. Alors après, ça peut être calcul aussi sur un match aller-retour.
Après le truc qu'on avait vu quand il y a eu le Covid, c'était pas terrible quand même, faut quand même avouer que c'était moyen,
c'est parce qu'il y avait personne dans le stade.
Non mais voilà, mais en fait ça c'était déjà une copie, tu vois. On peut par rapport à ça, c'était quand même très moyen. Ça restera pas, alors le mec il a gagné. Ça compte, bien entendu, mais c'était un ersatz de Coupe du Monde, de Coupe d'Europe, c'était moyenasse.
Après, regarde, là, on a eu 2 demi-finales avec les supporters de Madrid qui se sont déplacés à Manchester et ceux de Villarreal à Liverpool. J'ai vu des images super entre les supporters et il faisait un peu beau. Il y a eu 3 rayons de soleil, ils étaient à terrasse, ça s'est super bien passé. Donc, imaginons, moi, je l'ai fait le Final Eight à Benfica, donc imaginons à Lisbonne. Les supporters normaux de 4 équipes qui se rejoignent dans cette ville qui est super pendant une semaine et tout, c'est sûr que ce côté-là il est sympa mais au détriment de beaucoup de choses qui sont encore plus sympas d'après moi. Bien sûr que ça peut être sympa de se retrouver dans un endroit unique pendant plusieurs jours entre supporters.
Ou alors, moi je suis d'accord, 4 jours dans la même ville, mais c'est les règles des années 80 avec les Anglais qui chargeaient,
Régis, mets de l'huile.
À tout de suite, le Super Moscato Show continue avec l'euro raté de l'équipe de France. Et puis on va parler MotoGP, le classement des 50 meilleurs pilotes de légende. Qui est le plus fort entre Giacomo Agostini et Valentino Rossi? Eh bien, Philippe Monneret va nous répondre.
Le passionnant Philippe Monneret, très bon client.
Très sympa, très drôle. Et vraiment, pour les amateurs de moto, c'est génial. À tout de suite.
Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien
Aigouin. Dans quelques minutes, Philippe Monneret sera avec nous, le pilote vainqueur des 24 heures du Mans, grande famille de motards, les Monneret, qui va nous présenter son bouquin 50 pilotes de légende. En fait, ce qui est génial avec ce bouquin, c'est que c'est les débats qu'on fait dans l'émission. Qui est le plus fort entre Agostini et Rossi?
Et ce qui est d'autant plus génial, c'est que Philippe Monneret, c'est un copain de Vincent Moscato et Denis Charvet.
Il est aussi débile que les deux.
Oui, et donc, on va apprendre des choses sur la MotoGP, parce que c'est pas le sport dont on parle le plus dans le Moscato Show. Et en plus, ils racontent quelques anecdotes de leur vie commune.
Et puis, à 17h, donc, peut-on gagner sans un grand buteur? C'est le buteur de La Rochelle qui est mis en accusation, Yaya West. Mais d'abord, l'euro est-il digéré?
Kylian Mbappé face à Sommer. Kylian Mbappé! Arrêt de Sommer! C'est un cauchemar pour Mbappé! C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée!
Gloire, décadence, profanation, renaissance, la vie de ce paquebot est un vrai sujet de roman. Le gigantesque objet de luxe s'évapore.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard.
Les idées les plus folles circulent, transformer le paquebot en hôtel flottant, voire en maison de retraite.
Je suis convaincu qu'il y a encore de belles choses à faire avec ce groupe-là.
On essaie toujours de trouver l'homme providentiel capable d'acquérir ce mastodonte des mers.
Je suis à bloc, moi, de défiscalisation, je peux plus balancer le tulle.
Moscato, il va te le régler le problème.
La France poursuit sa préparation à la Coupe du Monde avec l'Afrique du Sud au programme. 21h sur RMC. Le match est à Lille. Avec son réservoir de joueurs, la France fera partie des favoris au Qatar. Pourtant, ça n'a pas fonctionné à l'Euro. Deschamps n'a jamais trouvé le bon équilibre pour intégrer Benzema, et qui est pourtant un titulaire indiscutable. Il n'est pas question de remettre ça en cause. Est-ce que tout ça est digéré? Est-ce qu'on est à l'abri d'une nouvelle désillusion? Vincent règle le problème tout de suite avec vous au 32-16. Vincent, est-ce que tu as l'impression que c'est fait, l'intégration de Benzema, cette équipe de France avec tout ce talent, tout ce potentiel offensif, ou est-ce qu'on est pas à l'abri d'une nouvelle désillusion.
Ah non mais Pierrot, c'est la Coupe du Monde. Les désillusions, c'est monnaie courante. D'ailleurs, c'est 100 ans de désillusion pour deux Coupes du Monde. Tu vois ce que je veux te dire, Pierrot? J'exagère, bien sûr, parce qu'il y avait...
Oui, mais il y a des illusions et des illusions. Oui, si tu perds en finale contre la Belgique à l'Euro, c'est pas pareil que si tu perds en quart contre la Suisse ou en huitième.
C'est une désillusion, bien sûr, qu'en quart contre la Suisse, c'est une désillusion terrible. Et qu'elle est restée en travers. C'est quand t'es joueur de foot, eux vont attaquer quand même avec... Et c'est peut-être ça qui va être le moteur. Parce qu'ils avaient besoin. C'est dur de digérer un titre de Coupe du Monde, de champion du monde. Tu te rends compte, surtout pour des jeunes talents comme Mbappé, Griezmann et tout ça, c'est très dur à digérer. Ça les a remis en piste. C'est peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas s'il y a des mal pour un bien, parce que souvent on s'arrange en disant ça. Quand on a un échec, on dit c'est mal pour un bien. Moi, j'y crois pas trop. Quand t'as mal, t'as mal. Ça ne fait pas du bien derrière. Ça n'existe pas. Il vaut mieux tout gagner que le contraire. Mais bon, peut-être que ça va les faire réagir, sortir de leur confort. Après que tu me dis Benzema il est intégré, ben jusqu'à maintenant non, hein, il n'est pas intégré. Mmh. Hein. Donc on va voir. Hein.
Pour toi,
on va voir
s'il va s'intégrer.
Mais c'est les résultats. Le problème, c'est que j'ai pas de boule de cristal. Moi, on me dit, je joue bien avec les autres, ils ont retrouvé leur football. Les compilages, moi, je m'en méfie. Les compilages, ça va, ça entre. C'est toujours pour vilain, mec.
Il y a eu une compétition quand même gagnée dans ce système, hein, la Ligue des Nations, même.
Avec un bon Benzema.
Mais qui? Quelle compétition?
Mais la Ligue des Nations, ils ont battu la Belgique en demi et l'Espagne en finale. Des matchs de haut niveau, quand même, Eric.
Ah ouais, non, mais là, c'est pas le tournoi des nations, là, c'est du haut niveau.
Non, mais qui pour Deschamps compte. Je sais ce que t'en penses, Vincent, mais pour Deschamps.
Mais non, mais ils ont baptisé Ligue des Nations, les matchs amicaux. Bon, alors voilà. Donc si pour vous c'est une compétition, on n'a pas les mêmes rapports à la compétition. C'est pas un souci. Et je suis tolérant. Je vous l'accorde. On n'a pas les mêmes rapports. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est la vie qui est comme ça. Mais bon, moi, quand tu déguises des matchs amicaux en mettant champion du Languedoc-Roussillon, quand t'es champion du Languedoc-Roussillon, t'es champion de Nîmes.
Vincent,
de Nîmes.
Vincent,
même si à Perpignan. Même si à Narbonne, t'es champion de Nîmes.
Pour être précis, Vincent, la Ligue des Nations.
Vous avez eu un trophée en gagnant l'Italie.
Pour être précis, la Ligue des Nations. Alors, Vincent, écoute-moi jusqu'au bout. Vincent, la Ligue des Nations, au bout du processus, on va pas rentrer dans les détails, Pierrot, hein, mais tu peux sauver ta place pour jouer la Coupe du Monde, la Ligue des Nations.
Mais ça peut t'offrir
un ticket pour la Coupe du Monde.
Adrien, fais-moi plaisir.
C'est pas
compare pas.
Ce sont pas des matchs amicaux.
Mais si, c'est des matchs. Mais c'est des matchs amicaux qu'ils ont déguisé, qu'ils ont mis un titre. Si, c'est des matchs amicaux. Ah, arrête, Adrien, maintenant. Arrête avec la pas du nul, quand même. Tu vas pas leur croire, mais
ils sont même
obligés. Chaque fois que tu mets une compétition, t'es obligé de filer une petite carotte à la fin.
La Coupe du Monde.
Toi, t'es obligé de donner une petite carotte. Voilà, bon, ben, si tu veux. Bon, alors, qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire un truc, c'est qu'on verra.
Rien n'est réglé, quoi.
Rien n'est réglé. Arrêtez avec les copinages. Encore une fois, je vais te le dire. J'ai été joueur, je connais les rapports humains entre les uns et les autres. Quand Benzema dit à l'autre, ou que Mbappé dit à l'autre, c'est pour virer l'autre. Leur copinage, si ça marche pas, ils vont s'assassiner les deux. Parce que c'est des petites stars. C'est des petites starlettes. C'est des avant-centres. C'est pas le métier du football, ça, les avant-centres. C'est des mecs qui sont solo. En vérité, ils font du vélo tout seul devant. Et puis les autres, ils font le mail pour eux. Moi, c'est pas cela que je préfère. Je préfère les goals. Je préfère le monsieur qui avait une couette. Je préfère ces gens-là qui sont les sapeurs de ce jeu et qui forment le collectif. Qui eux se battent pour le collectif. Eux, ils vont structurer la défense. Ils vont structurer tout ça et ils vont envoyer leur starter te marquer des buts et faire les photos avec le journaliste. Alors, donc, moi, l'amitié Benzema Mbappé, écoute-moi, c'est du beurre dans les oreilles. Voilà.
Voilà. Tu imagines le cauchemar, l'Angleterre championne du monde, Vincent?
Oh non.
Je sais que ce serait ton cauchemar, toi.
Même en foot,
c'est un cauchemar pour
toi. Au rugby, tu me parles. L'Angleterre championne du monde à Paris.
Au foot.
Et l'Angleterre championne du monde à Paris. Au rugby. Ah, écoute-moi, j'ai déménagé, je te le dis. Je pense que sportivement, tout confondu, l'Angleterre qui au Stade de France gagne en plus de mettre 30 points en finale de la Coupe du Monde. Même rien que d'y parler, écoute-moi, je transpire. Ah oui, je te jure.
Allez, on continue sur RMC de revivre les meilleurs moments de la saison. Et c'est l'heure de parler MotoGP avec un passionné spécialiste et en plus qui aime jouer, puisque Philippe Monneret s'est amusé à classer dans l'ordre les 50 meilleurs pilotes de l'histoire de la moto. Valentino Rossi est-il premier ou deuxième? La réponse tout de suite sur RMC.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Le cri du cœur du Super Moscato Show, c'est Philippe Monneret, premier français vainqueur d'un Grand Prix 500 cm cube, l'équivalent du MotoGP, vainqueur des 24 heures du Mans. Philippe, salut.
Alors, c'était mon frère qui a été le premier vainqueur.
Excuse-moi.
T'as vu, il y a l'amalgame parce qu'il a vraiment dit que j'étais. T'as vu comment il m'a présenté, Vincent, tout à l'heure, une pompe à vélo.
Oui.
Mais je peux en parler, je peux dire des trucs sur lui aussi. Je le balancerai au cours de l'émission, tu vas voir.
Gagner un moto.
Ah oui. D'accord, mais tu sais, là, dans le livre.
Dans MotoGP, c'est ça ?
Dans le livre, tu vois que dans le livre, c'est plus le même sport quand tu compares les époques. Et c'est compliqué de comparer les époques.
Alors, justement, le livre, c'est 50 pilotes de légende MotoGP, donc tu as classé les 50 meilleurs pilotes moto de l'histoire, mais pas pêle-mêle. Tu as fait un classement du premier au 50e, c'est ce qu'on adore.
Ça, c'est courageux. Bravo.
On va permettre de savoir qui est le meilleur entre Valentino Rossi, Giacomo Agostini ou Mick Doohan.
Ah oui, ou Parisienne.
C'est subjectif. Ben, c'est bien ça aussi, Parisienne. Mais c'est subjectif. Alors, il a fallu que je trouve une petite règle pour pouvoir le faire.
Quels sont les critères?
J'ai fait 4 critères. J'ai fait le palmarès. Parce que je voulais faire rentrer des mecs qui n'avaient pas de palmarès parce qu'ils s'étaient tués. Bah, j'ai vu Vatanen à l'aéroport. Je lui ai parlé de ce livre. Il m'a dit putain, tu mets Saarinen. Saarinen, c'est que 2 victoires en Grand Prix. Et après, il est mort. Et Saarinen, ça aurait pu être une star de la moto.
Donc, il y a le palmarès, un premier critère. Ouais. Quels sont les 3 autres?
Le charisme.
Le charisme.
Le talent. Et la notoriété.
Donc, c'est tout ça est jugé avec ta subjectivité.
Hein. Voilà, on aurait pu presque mettre Moscato avec son scooter dans les trucs.
Et la longueur du pot aussi.
Là, t'aurais perdu.
Alors donc, on en vient à la question qui tue. Qui est le GOAT en moto?
Eh ben, le meilleur. Pour nous, hein, au classement, quand tu fais les bêtes, tu sais, c'est tout con, hein, tu additionnes les points, ouais. Et tu trouves Valentino Rossi.
Alors, c'est Valentino Rossi, ouais. Qui devance Giacomo Agostini.
Ouais.
Tu peux nous l'expliquer?
Eh ben, parce que, c'est très proche avec, parce que le meilleur palmarès, ça reste quand même, Agostini. Mm. C'est le plus gros palmarès. Il n'en est pas loin, Valentino Rossi, mais c'est pas les mêmes époques. Ça a été, à mon avis, quand même plus relevé pour Rossi. Parce qu'à l'époque à un moment donné, dans sa carrière, forcément, il s'est frité à des garçons comme Mike Elwood, qui est quatrième. Mais, après, sur la MV, il a été un peu seul pendant quelques années. Donc voilà, tandis que Rossi, lui,
il
s'en est farci des
Est-ce que ce classement, suite à l'addition des 4 critères, correspond à ton sentiment, Philippe?
Ah bah oui, parce que
pour toi c'est le meilleur Valentino Rossi.
Une fois, parce qu'il y a de l'affect aussi, tout à l'heure on en parlait. Oui. Une fois qu'il y avait les comptes de fait, à un moment donné, bah je ne sais pas que je trichais, mais j'aidais un peu un pour qu'il passe devant celui que j'aimais bien. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de Français. On a des Français. C'est un livre qui aurait été fait en Italie ou en Espagne ou en Angleterre. Il n'y aurait pas Christian Ravel, il n'y aurait pas Michel Rougerie, il n'y aurait pas Patrick Pons qui n'ont pas fait grand-chose en Grand Prix.
Alors, Marc Marquez est troisième quand même. Alors, parle-nous de Marc Marquez.
Un génie. Alors là, lui, par contre, il prend 10 en talent.
Il prend 10 pilotage pur, Marc Marquez.
Voilà, c'est celui qui prend tous les risques et jusqu'au moment où c'était un peu un chat, hein, chaque fois qu'il tombait, il se faisait pas grand chose et puis il s'est fait mal.
Oui, cette dernière chute, ça fait
2 ans qu'il traîne ça.
Et il a du mal encore aujourd'hui à revenir à son meilleur niveau.
Il est plus à son niveau.
Et puis, il le retrouvera.
Ben j'espère, mais il y en a d'autres qui sont arrivés, des très bons, notamment Quartararo, donc ça va être très compliqué pour lui.
Après, Pierrot, il ne pose pas trop de questions, il ne connaît pas grand-chose non plus. Hein, Pierrot, attention.
Il fait celui qu'il connaît, mais il connaît rien.
Quand tu dis 10 sur 10 pour Marquez, on va dire en technique, en quoi, dans le pilotage, toi qui es un pro, tu te dis, c'est fascinant ce qu'il fait, et là, c'est la perfection.
Ne serait-ce que ces rattrapages de l'avant, cette attaque aussi, il suffit de voir quelques Grands Prix, des Grands Prix où il est parti derrière parce qu'il avait été pénalisé. Il est remonté, les attaques, les prises de risques. Et puis aussi cette motivation ultime, quand il tombe, il court vers sa moto ou alors il va rechercher l'autre et il repart et il va claquer un nouveau temps. Ça, c'est des pilotes incroyables.
Qui a inventé quelque chose, une façon de tourner, de mettre l'épaule, de mettre le coude, de mettre le genou? Qui a vraiment, il s'est démarqué par rapport aux autres là-dessus?
C'est bien que tu poses cette question. Je suis surpris d'ailleurs que tu poses une question.
Parce que c'est Philippe.
D'ailleurs, je ne vais pas être le seul. Depuis 1949, les pilotes, les grands pilotes, n'ont cessé d'inventer des techniques différentes en fonction du matériel dont ils disposaient. Donc là, les pneus ont vraiment évolué, on a changé la position. À un moment donné, vous avez vu, pour les freinages, les rétrogradages, ils mettaient la jambe à l'intérieur pour ramener la moto un peu plus. Et puis après, vu les c'est celui qui a le record de prise d'angle, hein, Marc Marquez aussi. Hein, c'est énorme.
Toucher la moto, là.
Oui, oui. Donc, ça a commencé, on a mis des sliders. Moi, quand je courais au début, on mettait pas le genou par terre. Après, on coupait des visières en deux on les scotchait sur le genou, et puis après les mecs ont inventé des sliders. Mais déjà mettre le genou, c'était quelque chose de pas mal.
Ah oui, tu coupes les viscères de...
Ouais, voilà, c'est pour un les truc scotcher. De fou.
Fabio Quartararo arrive 25e de ton classement. Oui. Tu lui as mis 9 en talent.
Ouais.
Il est aussi fort que Valentino Rossi. Rossi a également la note de 9.
Alors, je vais te dire un truc, on va confirmer, mais je me demande s'il est pas même plus fort. On va voir. Parce que c'est un peu tôt, mais il a que 23 ans. Tu te rends compte? Il a que 23 ans.
On va refaire un bouquin, alors.
Et bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça.
Comme ça, on fait un bouquin tous les ans. En gros, pour toi, il a tout pour enchaîner des titres. Parce que c'est ça qu'en fait, c'est ce dont on rêve. C'est qu'il enchaîne des titres et qu'il essaie de...
Et c'est un pilote exceptionnel. Et vous avez eu le calme quand même qu'il a. Il est très très rapide. Donc voilà. On est tombé. Et c'est pour ça que c'est le pilote qu'on attendait en France depuis 1949 en clair, ouais. Parce qu'il est capable de. Alors.
Toi, tu courais déjà en 49, non?
Et toi, c'était en 49 mais centimètres cubes.
Attends.
Raconte que ton père a été de Paris au Maroc en 49,9 cm3.
Alors, non, avec un 125 ou un 150 Vespa. Mais tu sais qu'il a fait pire que ça. Il a fait Paris-Londres en scooter. C'est-à-dire que quand il est arrivé à Calais, il a mis ça sur un radeau et il a traversé la Manche en scooter.
Voilà. C'est incroyable.
Il faisait que des trucs comme ça. Donc,
On rappelle que ton père, c'était le général de Gaulle. Bien entendu.
Et on pense à lui.
Alors, toi, tu t'es reconverti à un moment donné. C'est, d'ailleurs, tu as eu le temps d'écrire ce livre depuis 20 ans parce que tu as toujours ton emploi fictif dans les Hauts-de-Seine. Allez, passe-toi.
Qui n'est plus là. Est-ce que tu finances ton corps?
C'est marrant parce que vous étiez avec moi quand même. Oui.
On se demande si tu payes encore le 82.
Arrêtez de parler de ça,
j'ai encore l'alarme à l'œil.
Ah,
on peut m'entraîner.
En tout cas,
on s'est
marré,
là.
Oui,
il y a des choses qu'on ne peut pas raconter.
Ouais, si
vous voulez raconter un jour, puisque vous ne pouvez pas vous en empêcher de toute façon.
Ouais, on saura tout. De toute façon, en plus, Moscato, c'est une énorme balance. Donc,
quand ça ne concerne pas, il raconte.
Philippe Monneret, donc 50 pilotes de légende MotoGP. On va au moins mentionner tous les Français qui sont dans ton bouquin. Donc, Christian Sarron, Joan Zarco, Pierre Bonneret, Raymond Roche, Régis Laconi, Michel Rougerie, Christian Ravel, Patrick Ponce, Marc Fontan. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de mettre un peu particulièrement en lumière dans cette liste-là?
Ben, il y a Olivier Jacques qu'on a mis une petite photo sur lui. Est-ce que t'as cité Régis Laconi?
Oui.
Ouais. Régis Laconi, c'était quand même il a une personnalité aussi, hein, donc on l'a mis en avant. Et puis il y en a d'autres bien sûr, mais c'est aussi la moto, moins maintenant parce que c'est complètement différent. Quand je disais que c'était pas le même sport, il y a des pilotes qui n'ont pas eu la chance de disposer du bon matériel. Il y a quand même le matériel et qui sont passés à côté. Mais voilà. Non, mais et Randy Depudier, bien sûr. Et Randy Depudier,
bien sûr.
Avec qui je fais les stages et qui est avec moi et qui est vraiment un pote.
Vincent,
c'est des potes. C'est nouveau.
Pas dans le rugby, je peux te dire. Les mecs qui prennent la douche entre potes.
Il y a un nom qui vient en tête, c'est lequel, Vincent?
Comment?
Quand on te dit moto, toi, quel nom te vient en tête?
Écoute-moi, quand j'étais gamin, chaque fois, je te le dis, c'est pas la première fois, j'ai un nom qui me reste frappé, parce que je pense que c'est le premier coureur que j'ai vu à la télévision. Je me rappelle, c'était à Toulouse. J'avais été au Palais des Expositions à Toulouse, il y avait des télévisions. Les mecs, ils devaient exposer des télés. Je regardais, et j'avais passé l'après-midi à regarder un Grand Prix. Il y avait Barrichine.
Ah oui.
Je devais avoir 10, 12 ans.
Ouais. Il est combien, Barrichine?
Et ce mec-là, c'est toujours, je sais pas ce qu'il a, il a été champion du monde, je sais pas ce qu'il a
deux fois champion du monde.
Ouais, je sais pas ce qu'il a fait par rapport à toi. Tu as pas dans ton bouquin?
En cas, bien sûr, mais il est, parce que lui, il est assez bien placé, parce qu'en charisme, il est huitième avec seulement deux titres de champion du monde, parce que c'était le premier pilote moderne. C'est un pilote qui arrivait en Rolls sur les circuits avec sa nana, qui fumait sur les grilles de départ. Il avait fait un trou sur son casque intégral pour pouvoir passer la clope.
Oh, putain, c'est énorme. Voilà.
Et c'était
il y avait beaucoup de générosité quand même, énormément de générosité à l'époque.
Voilà. Alors, ça commençait, c'est lui qui a par exemple utilisé la première fois les protections dorsales. Avant, il n'y avait rien. Les pilotes, lui, il a travaillé là-dessus.
C'est lui qui court et chante.
Presque.
Mais Philippe, il y a Eric Dimeco qui est un fou de moto. Il me dit que le plus fort, c'est Giacomo.
Et il est deuxième. Mais c'est
bien lui, sûr. Il pense qu'il est plus fort que Rossi.
Que Rossi, mais j'adore Giacomo. Moi, je suis très, très pote avec Giacomo, qui est un mec extraordinaire, qui a roulé contre Mike Elwood. Moi, je dirais que même, c'est compliqué en talent pur de dire qui est le plus fort entre Mike Elwood et Ago. Moi, je pense que c'est Mike Elwood, mais même Ago le pense inconsciemment, parce qu'il s'est dit, putain, il était dur à battre. Mais après, il y a tout le reste. C'est pour ça que le classement, c'est avec les critères.
En termes de popularité,
Rossi, c'est celui qui a un peu démocratisé.
Oui, mais non, mais Agostini, c'était une star énorme.
Ah non, Agostini, c'était une star. C'est parce que t'es plus jeune, mais Agostini, c'était une star terrible. Et toi,
mais Surtees, tu sais, on parle de Surtees aussi dedans. Mais Surtees, c'est une énorme star. C'est le seul qui a été champion du monde plusieurs fois en moto et champion du monde de F1. T'imagines bien la star que c'était.
Tu racontes l'histoire de tous ces mecs. Il y a quand même une histoire fascinante dont j'aimerais que tu nous dises un mot, celle de Mick Doohan, qui est sixième du classement et qui aurait dû mourir avant d'être cinq fois champion du monde, c'est ça, ou quatre ou cinq fois.
Oui, il s'est broyé la jambe. Alors lui, il était dur au mal. Moi, j'ai roulé contre lui, notamment. Au Grand Prix de France, il était et alors ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à lui sauver la jambe. Pour l'irriguer, ils ont mis les deux jambes l'une à côté de l'autre pour que la deuxième jambe irrigue. Donc ils ont siamoisé les
il marche à pied joint.
Voilà. Et ils lui ont sauvé la jambe et il est revenu. Il a été champion du monde de nouveau. Et ben si c'est ça, fou, c'est pas ça. Du courage.
Parce c'est que de la
résilience. Est-ce que tu parles de ton bouquin, toi qui as vu piloter un scooter François Hollande, quel niveau il avait à peu près?
Ben pour pécho, c'est pas mal.
Et Vincent Moscato, il a quel niveau? Tu l'as vu piloter?
Moi je l'ai vu, il est énorme, Moscato.
Il se surnomme lui-même Jojo la Faufile.
Oui. Non mais il est assez à l'aise par rapport à son gabarit. Le problème, le scooter passe mais lui pas.
Le problème,
donc,
le problème c'est qu'il est à l'aise aussi par rapport à son niveau de pilotage. Et c'est ça qui m'a fait peur.
Le vert pour rouge, je l'ai jamais appris.
Je me rappelle, j'ai fait des stages avec toi et tout ça. C'est vrai que c'était un autre niveau. Un mec qui sait conduire comme c'est un truc de fou, quoi. Toi, ça n'a rien à voir. Toi qui après t'as fait ta conversion, t'es devenu ramasseur officiel de Savonnette dans les douches du Stade Français.
Motocross,
tu te régalais.
Pilote de légende de MotoGP, Philippe Audrey avec Lionel Rosso, Solar Edition. Merci beaucoup, Philippe.
Merci Philippe.
Merci à vous. Le meilleur pilote de l'histoire, classé de 1 à 5.
Et c'est peut-être la dernière fois que je viens parce qu'à Moscato, il est insupportable.
Tu sais quoi, Pierrot, on avait fait un stage tous les deux dans l'Aveyron.
Oh putain.
On était tombés sur des mecs, mais on pleurait.
Un contrôleur des contributions.
Un contrôleur des impôts qui était venu. Oh putain, on avait pleuré, mais c'était genre, on l'avait fait tourner en bourrique.
Attends, et Fort Boyard aussi.
Le Super Moscato Show continue dans un instant, Adrien, c'est le journal moyen.
Oui, c'est une succession de vents radiophoniques offerts par Vincent Moscato. Soutenant, Pierrot, on a débattu de l'OM. Et un auditeur qui s'appelait Garen.
Voilà, il y a des parents qui ont donné comme prénom à leur fils Garen.
C'est un nom qui est originaire des États-Unis, hein, donc peut-être qu'il y a une histoire personnelle.
Première curiosité. Deuxième curiosité, il appelle dans le Super Moscato Show, il s'adresse à Vincent Moscato.
Et Vincent va tenter des trucs sur Garen.
Donc restez bien à l'écoute, c'est le journal moyen, c'est dans deux minutes sur RMC.
RMC, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin. C'est le Super Moscato Show jusqu'à 18h. Pendant tout l'été, on est avec vous à l'horaire habituel. On revit les meilleurs moments de la saison. Alors, un des très grands moments de la saison, ça a été ce fameux débat sur Yaya West, dont on vous parle depuis 15h. Ça arrive juste après les infos de 17h. Mais d'abord, c'est l'heure du journal moyen sur RMC.
À la une du journal moyen aujourd'hui, c'est notre spécialité. Vincent va parler d'argent. Mais oui, mais de l'argent de qui?
Des autres.
Des autres.
C'est pas drôle.
Peut-être que si les autres peuvent nous envoyer un peu de temps.
Ouais, c'est bien.
Un membre du Moscato Show, Suspense, nous a offert un triplé vent. Hier, de qui s'agit-il? Indice. Il a porté le maillot de l'équipe de France. Ah, il y a encore un suspense.
Pas beaucoup.
Ouais, mais il y a encore un suspense.
Ah, quand même, oui.
Ah, bah oui, quand même.
Attends, quand même.
Bah, tu l'as porté, Vincent.
Mais pas beaucoup.
Pas beaucoup, mais on t'a remarqué quand tu l'as porté.
Ah, ouais. Non, par contre, il faut remarquer.
Il y a 30 ans.
Il y en a qui l'ont porté plus que toi, ça se souvient plus.
Mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
C'est vrai, bah oui.
Mais bon, je suis pas sûr que. Ouais. 16h55, première citation du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 1214e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction du Super Moscato Show,
c'est le journal moyen
d'Adrien Aigouin.
Service après-vente rapide du Super Moscato Show d'hier, en débat de l'Olympique de Marseille. Et Denis Charvet nous offre une fois de plus un grand classique. C'est un mystère, cette expression, c'est un mystère.
Oui, c'est-à-dire les équipes qui soient de 5 millions de budget, c'est-à-dire les Monaco, les Lyon et les Paris qui soient. C'est ça, mais c'est quand même l'ennemi intime.
Tu finis quand même en queue de boudin avec la Coupe d'Europe face à Feyenoord, qui n'est pas une grande Europe.
Tout le monde le fait depuis des années, la queue de boudin.
Mais j'ai l'impression que personne n'a remarqué sur le moment.
Plus ça va, plus
c'est devenu presque. Comment dire.
Non, mais les boudins n'ont pas de queue.
Non,
c'est les mélanges de boudin que de poisson.
C'est quoi? C'est nœud de boudin?
Non, c'est haut de boudin que de poisson qui veut dire la même chose.
Non, 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 c'est pas haut de boudin.
Si, ça finit
en haut de boudin.
Si, si, parce que
c'est un haut de boudin.
C'est pas un nœud de boudin.
Oh, non,
non,
non, non.
Un nœud de boudin.
Oh, il dit que non.
Tu sais que
non, c'est un peu nœud de boudin.
Parce que l'eau
un
du boudin, tu sais, quand tu le cuis un peu trop, il y a tout qui explose et c'est dégueulasse. Donc ça finit en haut de boudin.
Ça n'a rien à voir avec une queue.
Voilà.
Tout le monde l'a fait. Souvenez-vous, il y a quelques jours.
Après, il y a la queue de boudin.
Il y a quelques jours, Manu Petit.
Et puis. Vous parliez tout à l'heure, vous faisiez référence sur la fin de saison en queue de boudin un petit peu.
Voilà.
Au mois de mai l'année dernière.
Et c'est la queue de poisson, c'est ça?
La queue de poisson.
C'est un mélange de queue de poisson et haut de boudin.
À force de faire l'erreur, c'est presque devenu, en fait, dans le langage courant, un truc accepté.
Oui, mais non, tu peux pas accepter.
Assumer, pas accepter, mais assumer. C'est-à-dire que les gens disent queue de boudin en se trompant volontairement.
Ah, moi, je pense que c'est pas volontairement. C'est-à-dire que, à force de la répéter, la saucissonnade.
Moi, je le fais par erreur.
Mais hier, vous n'en êtes pas aperçu. Moi, je me suis aperçu de suite. Personne ne s'en est aperçu. J'ai eu des doutes. Je me suis dit, il a raison ou pas? C'est pas un nom de boulot.
Toujours hier, le Super Moscato Show. Toujours sur l'Olympique de Marseille. Un supporter marseillais nous appelle. Marie, tu n'étais pas là. Il s'appelle Garen. C'est d'origine américaine. On a vérifié Garen.
Joli prénom.
Mais forcément. Quand Vincent entend Garen, Vincent, Vincent dans sa tête, ça fait tilt.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur.
Et à partir de ce moment-là, Vincent, moi je l'ai vu dans son regard, Vincent n'est plus dans le Moscato Show. Vincent n'écoute plus le débat sur l'OM qui se déroule dans sa propre émission. Et Vincent va nous offrir quelques petits frissons. Je ne sais pas si vous avez soulevé ça, Pierrot et Eric. Éric Dimeco est en train de parler.
C'est des demi-frissons.
Éric est en train de débattre avec Garen de foot. Vincent va faire une première intervention.
Un jour, écoute-moi Garen, un jour on va poser la question aux joueurs, je la poserai quand même. Parce qu'il y a un truc, qui me fascine.
Ouais, Vincent est seul dans le dans le froid.
Il est content d'être seul.
Ça lui plaît, il a l'habitude.
Là c'est incompréhensible. La discussion se poursuit. Vincent va intervenir.
Il y a des joueurs qui sont capables de faire des passes. Le gros problème de la passe qui peut amener l'occasion ou le but, ça veut dire qu'elle est risquée. Ça veut dire, si tu es un
Terrier, il fait des passes.
Terrier qui ne joue pas,
qui joue pas du tout à l'OM, tu vois Rennes, on n'a pas du tout parlé. Récoutez la joie de Vincent quand il dit Terrier. Écoutez.
Il y a des joueurs qui sont capables de faire des passes. Le gros problème de la passe qui peut amener l'occasion ou le but, ça veut dire qu'elle est risquée. Ça veut dire, si tu es un entraîneur.
Il y a monsieur qui parle au bout de la table tout seul, on ne sait pas qui c'est.
En plus, il dit quoi?
Et attention là, à ce moment-là, Vincent en coulisses, dans ce qu'on appelle les ordres, Vincent demande à la régie des moyens de production pour sa dernière intervention.
Ah ouais,
débat.
Ça là, c'est la meilleure. on a mis les moyens là. Attends, ce que ça nous a coûté,
c'est
ça.
C'est spécial.
Alors là, baissez, vraiment, faites silence.
C'est spécial, Marie.
À ce moment-là, c'est Pierrot qui est en train d'échanger avec Garen.
Si tu refais la même saison l'année prochaine, en renouvelant un peu l'effectif, voire en recrutant, est-ce que tu es satisfait?
Oui, franchement.
Vraiment?
Après, attention, je suis d'accord avec Eric, sur certains matchs.
Est-ce que tu n'es pas satisfait juste parce que c'est mieux que l'année dernière?
Attention, baisse-toi, Garen, baisse-toi!
Non, non, pas du tout.
Voilà, on l'a perdu,
c'est mieux qu'année dernière.
J'étais content.
Les mecs, ils continuent.
Et le gars, il est dans son tunnel.
Mais oui, mais bien sûr.
Il continue.
Bon, mais par contre, j'aimerais savoir le surcoût de l'émission là, pour cet effet spécial.
C'est ça. On a le droit d'auteur pour le coup de fusil pour le chanceur.
C'est droit d'auteur, ça va payer cher.
J'aimerais savoir où il a trouvé ça. Il va où sur Internet? Quand il veut trouver ça, il va où sur Internet, sur YouTube?
C'est la petite qu'il y avait hier, elle était sur.
Il y a un enthousiasme de jeu d'acteur, Vincent. Capitaine Marlon, t'attends, c'est parti. Sans transition, direction les États-Unis, direction la NFL, direction le pognon.
Oh là,
Tom Brady. Brady has his fifth. What a comeback.
Accrochez-vous, on parle contrat, on parle très gros contrat, on parle communément ce qu'on dit, c'est artiche, Vincent.
Oui.
Tom Brady, 45 ans cet été en août, Tom Brady. Légende du foot américain, il est revenu sur sa décision, on en a beaucoup parlé, pas de retraite finalement. Il continue une saison au minimum avec les Buccaneers de Tampa Bay, Vincent. C'est un garçon prévoyant, parce que quand tu arrêtes ta carrière, il n'y a plus de revenus après. Il prépare pour sa carrière, il veut devenir consultant. Et donc hier, communiqué du directeur général de Fox Corporation, qui regroupe toutes les chaînes Fox, hein, Fox News, des chaînes sportives, etc. Après sa carrière, Tom Brady commentera le foot américain sur Fox Sport, comme fait Eric Dimeco sur la Première Ligue, la Ligue des Champions,
voilà,
sur
AMC.
Donc selon le New York Post, toujours très bien informé, c'est un contrat de 10 ans.
T'es à la concurrence, c'est rude.
Je sais pas si vous avez déjà eu un contrat de 10 ans dans un média. C'est,
ils le font là-bas.
10 ans, bon, avez-vous...
Ça fait 15 ans qu'on y est.
Avez-vous une idée
Il y a 15 ans, on ne nous a pas signé pour 10 ans.
Avez-vous une idée?
On va voir s'il va tenir, tu vas voir.
En dollars, du salaire annuel, un an. Déjà un an. Vincent.
Ah, d'après moi, 10 millions de dollars.
10 millions, Maryse.
Aucune idée.
Eric,
beaucoup trop toujours.
Non, 2.
2 millions par an, Pierrot.
Non, on sait, je sais. Donc.
Alors, Tom Brady va toucher par an, messieurs, dames, 37,5 millions de dollars.
Mais qu'est-ce qu'on fout là, nous aussi, là ? J'en ai marre, moi, d'être dans ce pays de pauvres, là.
37,5 millions de dollars.
Je veux pas football américain.
Ça veut dire que s'il tient ce rythme effréné, hein, il va commenter des matchs pendant 10 ans, c'est dur, quand même. Il ira toucher à la fin, Vincent, 375 millions de dollars.
Carrière confondue, c'est un mec qui sera pas loin des milliards.
C'est incroyable.
Entre les sports, les salaires.
Oui, même plus que ça.
Là, il a gagné l'euro million.
Même plus que ça, parce qu'on n'a pas les chiffres de ses sponsors. À mon avis, ses sponsors, ça doit être phénoménal.
Quand même. Il n'est pas le seul, quoi.
C'est le sport numéro 1.
Qu'un mec dans un sport collectif passe un milliard de dollars, c'est quand même.
Déjà, et en foot.
À la boxe, je veux pas, à la limite.
On avait été très impressionnés en foot en 2014 pour comparer par rapport aux États-Unis. Thierry Henry, il arrête sa carrière. Il a arrêté sa carrière. Il avait signé un contrat de 6 ans avec Sky Sports. 6 ans pour un total de 30 millions d'euros, 5 millions d'euros par an. C'était beau, pas mal, mais il y a des années-lumière de Tom Brady.
C'est énorme quand tu te rends compte.
Mais ça, il y a des frissons, Eric.
Et il me regarde, j'en viens, Marie, on se casse.
Après, la vie aux États-Unis est plus chère quand même. Hein.
Bien sûr, c'est beaucoup plus cher.
37,5 millions de par an, Tom Brady.
Ça paraît
incroyable. J'ai envie de dire chapeau à l'artiste.
Ça veut dire que tu touches plus qu'en juin.
Ouais.
Parce que là, il n'est pas à 35, il doit être à 15 ou 20.
Là, il se le verrouille. 25, il se le verrouille et puis c'est parti. Quoi.
Toi aussi, tu gagnes plus à lequel joueur.
Plutôt à 40, je crois.
Oui, non, mais nous, on portait de loin quand même, mon poulet. Donc,
Eric, toi, tu gagnes plus qu'en jouant ou en faisant de la radio? On ne peut pas comparer.
Allez, pose ta question.
Si, mon poulet, c'est pas comparable.